Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est aujourd'hui avec Paul Lassène, avec Benjamin Hamard, Thierry Moreau, Juliette Briens. On est ensemble encore pendant une heure dans Estelle Midi. Et c'est un vrai plaisir. On va parler résidence secondaire dans un instant. Pour vous, est-ce l'enfer ou le paradis? Est-ce que ça vous fait toujours rêver? Il y a plus de 3 millions de Français qui possèdent une résidence secondaire. Dites-nous si c'est votre cas. Dites-nous si vous en avez envie ou pas. On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC. RMC Conso, ce sera à 14h30. Charlotte Mériton vous dira comment ne pas vous faire arnaquer sur internet. C'est vrai que c'est important parce que les arnaques pullulent en ce moment. Il y aura les immanquables également, Paul.
Oui, Valérie Pécresse qui arrête de subventionner Sciences Po, Amazon qui va distribuer 2000 CDI en France, et on ira dans le Nord où une commune paie encore les pots cassés des émeutes de l'été dernier.
Et puis on vous fait gagner des places de foot extraordinaires.
Oui, puisque mardi prochain, le 7 mai, le PSG accueille le Borussia Dortmund au Parc des Princes pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, et on vous propose de vivre l'expérience RMC, l'avant-match dans les studios, le match au Parc des Princes avec la personne de votre choix, et vous revenez ici après le match pour assister à l'after foot avec toute l'équipe. Alors dès que vous entendez ce signal, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16 pour vous inscrire. L'alerte peut tomber à n'importe quel moment de la journée sur RMC, donc soyez attentifs. Aux places pour la demi-finale de la Ligue des Champions PSG Dortmund, ça se gagne uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
14h05 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le chiffre du jour. 3 690 000, c'est exactement le nombre de résidences secondaires aujourd'hui en France. 50% des Français rêvent d'en posséder une, mais attention, car avoir une résidence secondaire, même une toute petite maison à la campagne, eh bien ça peut coûter cher et même très cher, Paul.
Oui, avant d'acheter une résidence secondaire, plusieurs questions se posent. Le prix du bien, les frais d'acquisition, les frais inhérents au crédit, les charges, la fiscalité. Oui. Alors, comment être sûr que ça en vaut vraiment la peine? Alors, vous avez plusieurs critères à scruter. La localisation, d'abord. Il faut privilégier une maison accessible facilement. Rentabiliser sa maison, c'est aussi pouvoir y aller assez souvent. Autre point important, si c'est en zone touristique, tant mieux pour vous. Ça sera plus simple pour la louer, par exemple. Ensuite, l'utilité de cette maison secondaire. Est-ce que c'est pour des vacances, des week-ends de temps en temps, ou juste pour la louer? Il faut être vigilant sur l'usage que vous allez en faire. Pour info, la durée moyenne passée dans une résidence secondaire est de 44 nuits en général, soit 12% de l'année. Il faut également se pencher sur les frais d'entretien, les charges, que ce soit pour financer le ramassage des ordures ménagères, les taxes des collectivités locales ou les frais fixes liés à l'entretien de la maison. Également, si vous achetez une maison un peu vieille, pensez au coût des travaux de rénovation. Enfin, renseignez-vous sur la fiscalité, la taxe foncière fixée selon la taille du bien et la ville dans laquelle vous achetez, et la taxe d'application. Attention, elle est obligatoire en cas d'achat d'une résidence secondaire. Et enfin, la plus-value immobilière. Lors de la revente d'une résidence secondaire, vous êtes soumis à la taxe sur la plus-value composée de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Mais dis donc, ça fait envie votre papier.
Eh ben oui.
Mais du coup, j'ai plus envie. Alors, avoir une résidence secondaire, est-ce l'enfer ou le paradis? Tout d'abord, je me tourne vers vous, Benjamin Hamard, vous qui êtes militant CGT. Est-ce qu'un militant CGT, Benjamin, peut rêver d'une résidence secondaire, ou est-ce que c'est trop bourgeois?
Une datcha.
Oui.
Non, mais en réalité, je comprends tout à fait que des tas de gens aimeraient avoir le confort d'avoir une résidence secondaire. Et pas de caricature. Moi, je suis pas François Hollande qui disait les riches c'est à partir de 4000 euros. Donc quelqu'un qui a une résidence secondaire, chez moi, c'est pas ça le problème. Il est pas là l'ennemi de classe. Le problème, c'est que quand on compare avec la situation concrète dans laquelle nous vivons, il y a des millions de Français qui n'arrivent pas à se loger dans leur résidence principale. Donc leur parler de résidence secondaire, c'est être dans une galaxie. On est dans l'hyperespace. Moi, je vais vous dire, mais pour bien montrer que c'est hors de portée de beaucoup de personnes, pour revenir sur ce que disait Paul à l'instant, un jour, il y a un an, les impôts se sont trompés et m'ont calculé une taxe d'habitation de mon logement principal comme si c'était ma résidence secondaire. C'était un délire. J'en avais pour quasiment 3000 balles. Donc, quelqu'un qui a...
Est-ce que vous êtes toujours au siège de la CGT ?
Non, non, pas du tout. Je suis chez moi, dans mon appartement. Et donc, en l'occurrence, je me suis dit, mais alors, bon sang, il faut avoir les épaules financières. Et
c'est pour ça que les gens louent en Airbnb, notamment.
Voilà. Et donc, mais alors, ensuite, donc ça, c'est l'aspect économique, bien évidemment, et sur lequel j'insiste lourdement. Mais il y a un autre aspect qui, là, pour le coup, est plus existentiel. Je considère que si on a une résidence secondaire, c'est pour y aller, ou alors autrement ça n'a pas de sens.
Oui.
Et donc fatalement derrière, ben vous voyagez beaucoup moins. Et moi je trouve que quand on a la chance d'avoir une résidence, on y est, c'est chez nous, etc. Mais si il y a une alternance avec un autre lieu permanent, je trouve que ça ferme un peu les horizons. Et donc si on veut voyager, je pense que c'est un peu antinomique avec la résidence secondaire.
Ah bah après l'idée c'est aussi la fabrication de souvenirs pour les enfants, avoir en fait un lieu de vacances, bah vous rencontrez toujours les mêmes, etc. Vous faites des copains à vie et tout ça c'est aussi familial quoi.
Oui mais alors là c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu existentiel, c'est philosophique. Est-ce que vous êtes plutôt casanier ou bien sédentaire ou si vous avez un peu un aspect nomade.
Juliette Briens, vous qui êtes la plus jeune d'entre nous sur ce plateau, est-ce que ça fait rêver les jeunes encore la résidence secondaire? On sait que ça faisait vraiment énormément rêver les générations d'avant.
En fait, ce qui fait vraiment rêver les jeunes, déjà, c'est la résidence primaire.
Oui, c'est vrai. Voilà. T'as raison,
moi,
bien sûr.
J'aimerais déjà surtout pouvoir être propriétaire d'un bien. Voilà, j'en suis loin aujourd'hui, donc c'est surtout ça qui me fait rêver. Après, je me projette dans un rêve. Alors, projetons-nous. Je pense que c'est surtout une question de goût et de calcul. De goût, parce qu'effectivement, est-ce qu'on est prêt à se dire que désormais, nos vacances, ce sera là et pas ailleurs, puisqu'il faut rentabiliser. Si on a énormément d'argent, c'est-à-dire que vraiment la classe riche, très aisée, voire blindée, là, la question ne se pose pas. On peut déjà assumer les charges, assumer les taxes, et puis se permettre de ne pas y aller trop souvent, tout en envoyant quelqu'un pour que ce soit entretenir le bien ou même le louer, parce que c'est très bien de dire on va le louer. Mais pour louer, il faut à chaque fois aller faire le ménage, accueillir les locataires, etc.
Donc si on passe par des sociétés,
si on a des conciergeries, moyens, bon, voilà, je dis tout ça, c'est absolument merveilleux. Si on a un niveau de rémunération aisé, mais pas non plus catégorie blindée, comme je disais tout à l'heure, je pense que là c'est entièrement une question de calcul. Il faut absolument tout calculer. Donc déjà, comme j'ai dit, être bien sûr de soi que c'est là qu'on va aller passer ses vacances en famille.
T'as beaucoup d'héritage, hein. T'as beaucoup de grands-parents qui vivaient à la mer ou à la campagne, alors, qui décèdent, les enfants ont la maison.
Là, je pars du principe qu'on est dans l'acquisition d'une résidence secondaire, puisque c'est le débat.
Souvent, c'est vraiment par héritage.
Donc calculer combien ça va nous revenir. Donc il y a des communes qui taxent, par exemple, les logements vacants. Il y a quand on a une résidence secondaire, on paye les taxes d'habitation, contrairement maintenant.
C'est ça.
Voilà. On a
ma commune, elle a augmenté de 60% l'an dernier.
Voilà. Donc il y a énormément de choses à considérer. Plus il faut aussi pouvoir avoir un prêt. C'est très difficile. Ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un prêt pour une résidence secondaire que pour
acquérir une résidence principale. Logement.
Donc il faut absolument tout calculer et voir si on est capable de gérer. Et je pense qu'il faut prendre une marge très large. Voilà. Parce
ça, c'est sûr.
Il peut se passer beaucoup de choses dans une résidence secondaire. Voilà.
Vous avez déjà eu une résidence secondaire ou pas, Thierry ?
Oui, je suis plus âgé que Juliette, donc évidemment quand
quand
mes grands-parents et mes parents sont décédés, j'ai hérité de la maison de vacances qu'on avait au bord de la mer, où mes parents se sont rencontrés d'ailleurs, où j'ai eu beaucoup.
C'était où ?
À la Tranche-sur-Mer, en
Vendée. Sympa.
Et donc j'avais beaucoup beaucoup de souvenirs dans cette maison. Le seul problème, c'est que je n'y allais que 15 jours par an parce que je bossais beaucoup. Mes enfants y étaient attachés aussi parce qu'ils y ont été un peu. Le problème, c'est qu'utiliser une maison 15 jours par an, moi je suis contre le fait de louer sur raison. D'abord, avoir quelqu'un chez moi, ça me gave. La deuxième chose, c'est qu'elle n'était pas aux normes. C'est une maison qui avait été faite dans les années 40-50. Donc il fallait faire une multitude de travaux pour la mettre aux normes, que ce soit pour la louer ou que ce soit pour qu'elle devienne très agréable. Donc je l'ai vendue. Donc je me suis débarrassé de mes souvenirs d'enfance, mais aussi d'un poids et d'une charge.
Un chien à la patte.
Oui, voilà. Et puis j'ai choisi une maison loin de Paris. Comme ça, j'ai à la fois un peu les vacances et à la fois un peu la résidence principale. Je pense que c'est un bon compromis. Et je suis un peu comme Benjamin. Quand on a de l'argent, j'aime bien voyager plutôt que de revenir chaque année au même endroit. Alors je comprends la construction des souvenirs parce que j'ai même vécu ça, mais je trouve que c'est bien aussi de voyager.
Après, en fait, justement, aujourd'hui, alors c'était pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les systèmes style Airbnb te permettent,
bien sûr,
effectivement, de louer ta maison et de partir. Même les systèmes d'échange de maison, etc. Et
ça
en fait, aujourd'hui, tu peux avoir une résidence secondaire et puis et la louer et faire finalement autre chose.
Oui. Quelque chose qui est bien, c'est si on arrive un peu à la retraite, etc., et qu'on a un peu les moyens, ce serait plutôt d'avoir une résidence primaire qui ressemble à une maison de vacances pour recevoir absolument tous les petits-enfants et que la résidence secondaire de ces enfants devienne la résidence des grands-parents.
Mais souvent, les gens à la retraite partent dans leur résidence secondaire et vendent leur résidence primaire.
Voilà, et ça devient la résidence primaire pour recevoir toute la famille et construire ses souvenirs.
Exactement. On a Gilles, tiens, qui nous appelle de Rumilly et qui est agent de maîtrise. Bonjour Gilles.
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Bonjour.
Et vous faites partie des Français qui avaient une résidence secondaire, Gilles, c'est ça ?
Oui, tout à fait. J'ai une résidence secondaire et moi, je fais partie des gens qui considèrent que avoir une résidence secondaire en France, c'est un enfer.
Ah, bah elle est où votre résidence secondaire ?
Au Portugal.
Ah, très bien.
Je n'ai aucun lien de sang avec le Portugal.
Mais il y a des avantages fiscaux, non ?
Il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Ouais. Alors, quand on a voulu, parce que j'ai eu la chance d'avoir de l'argent, j'ai bossé pour ça.
Il n'y a aucune culpabilisation.
Je dis ça pour notre ami.
Benjamin, non, non, mais il n'avait rien dit. Ne le
remerciez
pas.
Je ne verrai pas le
NKVD. Il était calme.
Donc voilà. Donc, on avait de l'argent à investir. On souhaitait acheter une résidence secondaire en France.
D'accord.
Et quand on a vu les taxes, donc locales, foncières et tout ce qui s'ensuit, on s'est dit, ben non, c'est trop cher, on va pas acheter. Et puis, on est allé, parce qu'on a visité pas mal de capitales en Europe, et on est allé à Lisbonne.
D'accord.
Ma femme est tombée amoureuse de Lisbonne, et donc on a acheté là-bas.
Et je peux vous demander combien vous avez acheté, Gilles ?
Oui, on a acheté un appart qui fait 75 mètres carrés, on l'a payé 75 000 euros.
Ah oui,
meublé.
1000 euros du mètre meublé à Lisbonne.
Ouais.
Ah oui, évidemment. Oui, évidemment. Ouais.
Et c'est pas les mêmes taxes et impôts. Hein.
Oui, c'est pas le prix de la Côte d'Azur. Et alors, il y a une taxe d'habitation là-bas. Comment ça se passe ?
Eh ben oui, la taxe d'habitation, je l'ai reçue hier.
Ah bah c'est combien ?
Et elle s'élève à 185 euros.
Bon bah moi c'est bon.
On arrive. Attendez-nous Gilles, on arrive.
Je pars la Bretagne, je pars au Portugal.
Redis-nous les plans.
Et Gilles, est-ce que par exemple vos amis viennent au Portugal ? Parce que c'est vrai que c'est moins facile de venir au Portugal que quand vous avez une maison en France, pas loin de tout le monde et tout ça.
Eh bien, notre appart, on le prête à la famille, à des amis, on le prête à beaucoup de monde. D'une, pour qu'il y ait une présence, et puis deux, parce que ça nous fait plaisir de faire plaisir.
Oh, c'est génial.
Ceci dit, notre appart, nous, on l'a jamais loué parce que ça nous intéresse pas. On
D'accord.
l'a pas acheté pour ça. Ma femme se rend à Lisbonne un petit peu pour faire ses courses. Hein. Elle y va tous les deux mois à peu près.
Ouais.
Et elle y va tous les deux mois en avion.
Ah oui, ça coûte cher, ça aussi.
Oui, voilà, on prend l'avion, effectivement. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus écologique, mais quand on pense que ma femme, en s'y prenant à l'avance, arrive à trouver des vols à moins de 50 euros l'aller-retour pour Lisbonne pour un séjour de 4-5 jours.
Oui, oui.
Bon, ben voilà, c'est même pas le prix du péage pour aller à Montpellier.
Non, mais c'est terrible ce que vous dites, parce qu'évidemment, vous avez raison, et en plus, la bouffe est beaucoup moins chère. Donc, mais bien sûr, bah, écoutez, bravo, Gilles. Là, c'est un bon plan que vous donnez à tous nos auditeurs qui n'ont pas un très gros budget. Effectivement, on peut avoir une résidence secondaire dans une grande capitale pour moins de 100 000 euros et payer 180 euros de taxes d'habitation. Bah, écoutez, bravo, Gilles.
Bah, moi j'ai rien fait, hein. C'est la fiscalité française la fiscalité portugaise qui fait que.
Alors voilà. Est-ce qu'on va dire bravo à la fiscalité française ? Ça c'est un autre.
Il y a pas mal de pays du Sud qui ont mis en place ce type de genre de fiscalité pour attirer justement ces gens qui ont un revenu à dépenser là-bas.
Ils en reviennent, c'est-à-dire que la Grèce, par exemple, les Cyclades aujourd'hui sont peuplées d'étrangers et la Grèce ne veut plus en fait qu'il y ait de ressortissants français notamment qui achètent là-bas. Et le Portugal commence à revenir aussi sur son système fiscal très avantageux pour les retraités.
Le
mais pour l'instant, Gilles a acheté au bon moment, il est heureux et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Carlo, également chauffeur routier du côté de Beaucaire dans le Gard, nous a appelé au 3216. Salut Carlo.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Carlo, vous avez une résidence secondaire, vous ?
Oui, en Italie.
Ah oui, vous aussi. Vous êtes parti à l'étranger.
C'est tout à fait. Ben, moi, je suis d'origine italienne.
Ouais.
Et on se me suis rapproché de la famille pour la retraite. Et puis, j'ai acheté une maison là-bas, pas loin de la mer, à 100 mètres à pied, quoi.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Dans quelle région ?
Du côté catholique, après Rimini.
D'accord.
Voilà. Et puis voilà quoi.
C'est... Vous aviez une résidence secondaire en France avant, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On l'a vendu parce que surtaxé, machin bidule, j'en avais marre. Et du coup, on l'a vendu. Puis j'ai racheté une maison là-bas. Tout simplement.
Et votre maison, elle vous a coûté combien, Carlo ? Plus ou moins cher qu'en France ?
Je l'ai acheté 40 000 euros et j'ai mis à peu près 20 000 euros de travaux dedans. Puis voilà quoi.
On arrive aussi, Carlo.
60 000 euros ? Attendez, ouais, 60 000 euros, une maison à 100 mètres de la mer ?
Ouais, à peu près, ouais.
Mais elle fait combien de mètres carrés, votre maison ?
Oh, elle est petite, hein, elle fait 85 mètres carrés.
Ah oui, d'accord, ok. Non, mais laisse tomber. Ah oui, quand même. Et alors, la fiscalité en Italie ?
J'ai reçu aussi la mienne il n'y a pas longtemps. J'ai payé 210 euros.
D'accord. Bon, bah, écoutez, on va tous partir.
En France, quand ils n'auront pas compris, ils auront compris que taxer les gens, ça ne sert à rien. Et puis de taxer, ben, les gens, ils se barrent.
Mais vous avez raison. Et ce qui est terrible, en fait, et c'est aussi ce qu'a dit Gilles. Gilles pense les vacances, en fait. Et vous savez, les vacances, c'est quand même le moment où on consomme le plus. C'est le moment où on a économisé toute l'année. On lâche un peu. On fait plaisir aux gamins. Voilà. C'est là où on consomme le plus. Et ben, Gilles et Carlo. Eh ben eux ils vont consommer ailleurs quoi. Et ça c'est je trouve ça terrible. Ils vont consommer ailleurs parce que la fiscalité les a poussés à acheter une maison ailleurs. Et c'est fort dommage parce que ils auraient consommé pendant leurs vacances. Carlo il le dit, il a fait 20 000 euros de travaux. Je pense que voilà, les entreprises françaises auraient été ravies de faire des travaux, les artisans chez Carlo. Et au lieu de ça, ben il fait travailler forcément des artisans italiens. Et c'est dommage parce que c'est des pans de consommation et d'économie qui nous échappent. Merci Carlo en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis bonnes vacances en Italie qui est aussi un magnifique. Ouais. Pays, vous avez des messages sur l'appli RMC Paul.
Oui, on a un autre exemple, celui de Thierry qui nous dit pour la résidence. Ah, oui, mais différemment. Ah. Pour la résidence secondaire, j'ai opté pour autre chose. Je loue à l'année une maison à Djerba. Ça lui coûte 200 euros par an, visiblement. Et j'y passe 10 mois sur 12.
Ah oui.
Non, alors par mois, pardon. Il précise, sans autre investissement que 200 euros par mois, je vis comme un prince sous le soleil.
Ok, donc tout le monde part. Oui. Bon, écoutez, on va demander à Maëlle Bernier, qui est notre invitée sur ce débat, hein, qui est porte-parole de meilleurtaux.com, si tout le monde va finir par partir de France. Bonjour Maëlle.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et
bonjour,
merci
bonjour.
Beaucoup d'être avec nous. Bah, vous avez entendu nos auditeurs, ils ont tous une résidence secondaire, mais ailleurs.
En fait, malheureusement, je pense que tout est dit. En fait, tout a été résumé. C'est-à-dire qu'en fait, avoir une résidence secondaire en France, il faut être motivé. Il faut être blindé, comme l'a dit de vos chroniqueuses, et il faut être très très amoureux du pays quand même. Parce que effectivement, quand vous avez une résidence secondaire en France, on vous allume sur la résidence taxe d'habitation, sur la taxe des logements vacants. Quand vous êtes dans la ville en question, à certains endroits, on vous regarde comme une horreur de touriste. Les Parisiens arrivent, enfin ça doit parler à beaucoup de gens. Alors qu'on voit dans d'autres pays, en fait c'est welcome, il n'y a pas de taxes, l'avion coûte rien pour y aller finalement. Donc en fait, tout est fait pour que ça devienne un enfer. Alors qu'au départ, la résidence secondaire, c'est quand même un truc hyper sympa qu'on achète pour faire des week-ends avec des copains. Le grand week-end de mai arrive, donc on voit tout ce que ça veut dire. On part avec les copains, on part avec la famille, on profite des enfants. Vous avez raison de le dire. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces week-ends-là ? On va consommer sur place. On va dépenser dans les restos, on va dépenser dans les apéros, dans les bars, dans les épiceries, partout. Mais en France, on a une espèce de focus d'incrimination où on montre toujours celui qui a un peu réussi ou qui a de l'argent avec deux doigts et donc on taxe.
Mais Maëlle Bernier, est-ce que vous pensez que c'est la fin des résidences secondaires en France ? C'est-à-dire que les Français qui ont la chance d'en posséder une, vont vendre finalement pour partir vers d'autres cieux ?
Alors, je crois pas parce qu'on est un peu dur, on est un peu dur à la besogne. Et en fait, beaucoup de résidences secondaires aujourd'hui sont rentables parce que vous l'avez dit. En fait, on loue en Airbnb pour que ça couvre les charges. C'est-à-dire faut que ça couvre le chauffage quand j'y vais l'hiver, que ça couvre la taxe foncière, la taxe d'habitation et compagnie. Et puis, une fois que je suis rentrée dans mes clous, en fait, c'est plus que du plaisir. Et puis, ça va pour les enfants, les petits-enfants. On crée des souvenirs, comme l'a dit Thierry Moreau. Ça, c'est très vrai. Et l'appartement de 85 mètres carrés à Lisbonne, c'est moins vrai. La grande maison en Bretagne ou dans le Pays Basque, c'est plus vrai, vous voyez. Donc il y a aussi, qu'est-ce qu'on entend par résidence secondaire ? Est-ce qu'on entend un pied-à-terre dans une grande ville, mais pas très grand ? Ou est-ce qu'on entend une grande surface dans laquelle on a les potes, les enfants, les copains des enfants, et on fait une franche bonne ambiance. Et je pense que c'est là-dessus que vit la résidence secondaire en France. Mais il est vrai que si on regarde d'un point de vue purement fiscal et purement financier, ça reste quelque chose qui nécessite un effort.
Ah bah oui, un effort financier. C'est vrai que tout est fait pour taxer. Mais effectivement, quand tu as une résidence secondaire aussi, tu le disais, il y a besoin de l'entretenir. Donc les petits travaux, le jardinier, parce que t'es pas là pour tondre, ça. Et ça crée aussi des petits emplois dans la ville, parce que souvent les locaux, bah, ils ont le si t'as une maison dans le Pays Basque, bah, si t'habites sur place, bah, c'est toi qui tonds. Tandis qu'effectivement, le Parisien, bah, lui, il peut pas tondre, donc il va faire appel à un jardinier, etc. Et donc ça crée aussi des emplois. Mais ça empêche les locaux de se loger. Ça, c'est vrai, c'est vrai aussi.
Ça, c'est vrai, parce que c'est la critique qu'on fait souvent au concept de résidence secondaire. Est-ce que la crise du logement, elle s'inscrit dans les logements qui sont susceptibles de devenir des logements région, secondaires?
C'est ce que je demande. En Bretagne, t'as beaucoup de villes où il y a plus de la moitié de la ville qui est des résidences secondaires. Alors que ce sont des résidences qui effectivement auraient pu aller à des
locaux. Pour aller au Portugal. Dans certains pays, ça va peut-être pas durer avec la crise écolo le jour où le kérosène sera taxé et qu'il y aura une véritable politique pour empêcher ces vols low cost. Ça sera peut-être moins rentable d'y aller.
Mais certes, mais en tout cas, les deux exemples qu'on a eus, c'était tellement peu cher. Quand tu as une maison de 85 mètres carrés à 100 mètres de la mer pour 60 000 euros, travaux compris, c'est imbattable. Même dans la Creuse, ça coûte 10 fois plus cher. Il n'y a pas la mer. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, les exemples que nous ont donnés nos auditeurs étaient assez parlants. Tiens, on a Pierre qui nous appelle de Langon. Langon, c'est dans les Landes. Magnifique région également. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Pierre, vous avez une résidence secondaire aussi?
Oui, une petite résidence du côté de Biscarrosse.
Ah, sympa.
À Biscarrosse,
sympa.
Et donc vous n'êtes pas encore parti à l'étranger, hein?
Non, pas encore. Par contre, je la loue l'été pour partir à l'étranger.
Ah oui, et ça vous paye vos charges quand vous louez, Pierre?
Presque. Voilà, quelque chose près. Oui. Comme ça, en fait, j'en profite le reste de l'année. Bon, après, je suis qu'à une heure de route. Donc, je peux y aller dans la journée et en profiter facilement.
Et donc, vous y allez souvent?
Oui, assez régulièrement. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des taxes, c'est de plus en plus. Elles sont de plus en plus importantes.
Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'avoir une résidence secondaire?
Bah, le côté de, on peut laisser nos affaires là-bas tranquillement.
C'est vrai.
On fait les sports nautiques, donc on se douche direct. Bon, après c'est un confort qui est très apprécié, et puis les enfants aiment bien. Mais c'est vrai que l'été, comme il y a beaucoup de monde, on préfère la louer
Ça couvre une partie des frais, mais c'est vrai qu'à Biscarrosse, effectivement, l'été, il y a énormément de monde. Et alors après, le mythe de la valise, j'arrive dans la résidence secondaire sans la valise parce que j'ai tout sur place, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a, on a toujours une valise avec nous, tu sais pas pourquoi, mais t'amènes toujours des valises.
Ok, d'accord, t'as totalement raison.
Jamais t'arrives dans ta résidence secondaire avec juste un trousseau de clés. Hein. T'as toujours un truc à rapporter de ta résidence principale dans la résidence secondaire parce que tu t'en sers plus et tout. Ah oui, non, ça c'est. T'as toujours une valise. Quand même, merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Maëlle Bernier d'avoir été notre invitée. On vous posait la question, avoir une résidence secondaire, est-ce l'enfer ou le paradis? Est-ce que ça fait toujours rêver les Français, Paul?
Eh bien c'est très 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 serré. Vous répondez paradis, mais pour 52% d'entre vous seulement.
Marge d'erreur. On n'a pas posé une question, résidence secondaire en France, est-ce l'enfer?
Oui, sinon je pense que le résultat aurait été plus tranché.
Ou le paradis. Allez, dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. On vous dira comment déjouer les arnaques de plus en plus nombreuses sur Internet. On va vous donner 3 astuces indispensables pour ne plus jamais vous faire avoir. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h30 sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure à laquelle on parle conso tous les jours dans l'émission avec Charlotte Méritant. RMC Conso, c'est tout de suite.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et aujourd'hui, Charlotte, on parle des arnaques sur Internet. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus de Français se font arnaquer. Mais aujourd'hui, eh bien, vous allez nous donner 3 astuces indispensables pour ne plus jamais qu'on se fasse avoir.
Oui, tout le monde achète sur Internet. Enfin, en tout cas, presque tout le monde. 70% des Français, sur les 12 derniers mois, ont déjà fait un achat sur Internet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire un site Internet, poster quelques annonces, vendre ça avec quelques articles, c'est un jeu d'enfant. Donc, le web abrite énormément d'arnaques. Il faut faire hyper, hyper attention. Alors, effectivement, je vais vous donner 3 conseils. Et si vous les appliquez, je peux vous garantir que vous ne vous ferez plus jamais avoir. Et le premier, c'est tout simplement de vérifier les 4 ou 5 premières lettres de l'adresse du site Internet.
Ah oui, c'est-à-dire ?
En fait, un site commence toujours par HTTP ou HTTPS. Ah, voilà.
D'accord.
Donc, en fait, il faut absolument qu'il y ait ce S dans l'adresse du site Internet. C'est une première étape, on va dire, de sécurité. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand il y a le HTTPS, ça veut dire que les données que vous partagez avec le site Internet sont sécurisées.
D'accord.
Ça veut dire que un tiers ne pourra pas pénétrer sur le site et vous voler vos données. En revanche, il y a quand même un élément à savoir, c'est que si jamais le site sur lequel vous êtes est lui-même frauduleux, il peut très bien avoir ce HTTPS. Donc là, il faut faire attention parce que malheureusement, de plus en plus d'escrocs arrivent à avoir ce HTTPS.
Ah bah.
L'autre, voilà. Le signe, c'est le petit cadenas pour le repérer. Donc, première étape de sécurité. Mais attention, ça ne fait pas tout.
Quelle est la deuxième astuce ?
Un deuxième astuce qui vous aidera à renforcer encore plus la sécurité en ligne, c'est d'utiliser un outil qui jauge la fiabilité du site internet. Alors, je vais vous donner deux exemples. Il y en a un qui s'appelle France Vérif. Il y en a un autre qui s'appelle Scamdoc. D'ailleurs, si vous nous regardez sur RMC Story, vous voyez un exemple avec Scamdoc et je vous le mets aussi sur rmcconso.fr pour les auditeurs. C'est un site qui est 100% gratuit et il suffit que vous rentriez l'adresse du site internet en question dans la barre de recherche. Vous cliquez sur la loupe et là, vous avez un indice de confiance, un score de fiabilité du site internet en fait. En dessous de 50%, on vous déconseille d'acheter ou alors vous faites des mesures de recherche un petit peu plus poussées pour voir si c'est fiable ou pas. Mais en dessous de 50%, on évite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un algorithme qui fait ça. Et il mesure à la fois, il va recouper les informations à la fois sur les avis qui sont postés sur ce site, négatifs, positifs. Il va regarder les mentions légales, est-ce qu'elles sont bien indiquées ? Il va regarder aussi l'ancienneté du site, si ça fait un mois qu'il est créé. Eh ben, il va vous inviter à être plus méfiant et ça va vous donner un pourcentage. Et là, dans l'exemple que moi j'ai pris, j'ai fait exprès de prendre un site qui me paraissait très très suspect et il n'y avait que 1% de fiabilité.
Après, moi ça m'est encore arrivé hier parce que j'ai reçu un mail frauduleux mais qui était très bien fait sur un colis à aller chercher. Ah oui. Ben, j'ai tapé le nom du site tout simplement sur ma barre de recherche Google.
Google aussi,
et
ouais.
Tout de suite, il y avait marqué attention arnaque. Oui. Voilà, donc dans ces cas, ben, j'ai bloqué. Et puis voilà, en fait, ne serait-ce que juste mettre le nom du site sur marche. Google et normalement voilà. Ça marche quoi.
Ça peut vous donner un premier indice. Si vous voyez rien en faisant votre technique Estelle, vous pouvez utiliser un deuxième outil qui va vous renseigner un petit peu plus en profondeur.
Alors, il y a une troisième astuce, c'est d'utiliser une carte bancaire virtuelle à usage unique. Ça a l'air très compliqué quand même. Hein.
Non, c'est hyper simple. En fait, ça fonctionne exactement comme une carte bancaire classique, comme votre carte bancaire. Il suffit de la demander à votre banque. À la seule différence qu'en fait, vous ne faites qu'un seul achat avec. Donc, je vous explique. En fait, ça ressemble à une carte, sauf que vous ne l'avez pas entre les mains. C'est pas un bout de plastique. C'est complètement dématérialisé sur votre application bancaire. Vous avez le visuel et comme n'importe quelle carte, il y a les 16 chiffres de la carte bancaire. Il y a la date d'expiration et il y a le fameux cryptogramme. Vous savez, les trois chiffres qu'on trouve à l'arrière. Et donc, en fait, cette carte, elle est reliée à votre compte. Donc, quand vous allez payer avec, évidemment, c'est votre compte qui va être débité. Sauf que ce n'est pas votre carte bancaire habituelle que vous allez utiliser.
Elle s'autodétruit après un achat.
Voilà, elle s'autodétruit, ce qui fait que si jamais un escroc a détourné vos données personnelles, vos coordonnées de carte bancaire, ou si jamais vous étiez sur un site frauduleux, et donc c'est carrément l'auteur du site qui a piqué vos coordonnées bancaires, eh ben, il aura beau essayer d'utiliser vos coordonnées pour faire un autre achat ailleurs, il pourra pas, puisque la carte aura déjà expiré. Donc ça, c'est une assez bonne astuce. Toutes les banques ne le proposent pas. C'est celles gratuit. Qui le font, c'est gratuit. Donc, demandez à votre banque, ça vaut le coup d'essayer.
Et ça nous protège vraiment de la fraude.
Bah, ça vous protège en tout cas du vol de vos coordonnées bancaires. Après, c'est sûr que si vous achetez un objet sur Internet et qu'en fait c'est une fraude, vous ne le recevrez pas, vous perdrez l'argent issu de l'achat. Mais en tout cas, vos coordonnées bancaires, elles, seront sécurisées de cette manière.
Merci beaucoup Charlotte. Voilà, évitez de vous faire avoir grâce à Charlotte Méritant. Merci beaucoup. On parle de quoi demain Charlotte ?
Alors demain vous parlerez surimi avec ma collègue Sabrine Mimouni qui vous dira ce qu'il y a vraiment dans le surimi.
J'adore
parce que tout le monde
surimi.
Se pose la question.
Je suis sûre que vous savez quoi, le surimi c'est une légende urbaine. On nous dit que c'est que des petits déchets de crabe mais je suis sûre qu'en fait c'est bon.
Ah non, vraiment pas du tout. Enfin, non, vraiment des déchets de crabe. Dire que c'est pas bon, je ne sais pas.
Je prends les saveurs langoustes.
Ah oui, d'accord, encore mieux.
Ah, les saveurs industrielles.
Bah oui, mais c'est mon péché mignon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est bourré de protéines, j'ai vérifié sur la boîte. Bah oui.
Non, mais moi j'aime bien avec de la maillot, c'est très sympa.
Ah non, je le prends sans maillot. Bah non, nature. Ah, non, le produit, rien que le produit.
Faut pas dénaturer les
moules. Ah bah oui, quand on a un produit de qualité comme ça, on ne le dénature pas, monsieur. Bah oui, c'est important. En tout cas, on parlera sur Rimi. Donc demain, dans Estelle Midi. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette chronique de Charlotte et toutes les autres. D'ailleurs, en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, les immanquables avec Paul Lassène. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Paul Lassène, Benjamin Hamar, Thierry Moreau et Juliette Briand. C'est tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Nous allons commencer, Paul, avec l'emploi du jour.
Le géant américain Amazon a annoncé la création de 2000 emplois en CDI en France. Responsable des ressources humaines, spécialiste informatique, développeur de logiciels confirmés, chargé des opérations logistiques, préparateur de commandes, la liste est longue. Au total, ce seront plus de 24 000 salariés du groupe en France. Pour rappel, Amazon permet également à 16 000 PME tricolores de vendre leurs produits en ligne via leur site.
Alors, je sais qu'Amazon n'a pas très bonne presse du côté des syndicats, Benjamin Hamar, mais on ne peut que se féliciter quand même de la création de ces 2000 emplois.
Ah, bien évidemment, on n'est pas dans des postures ridicules. On sait suffisamment comme c'est grave lorsque des entreprises, notamment dans le textile, ferment, sont en faillite ou licencient alors que les résultats économiques suivent plus ou moins bien, pour ne pas en cohérence se féliciter lorsqu'il y a des créations d'emplois. Voilà, création d'emplois, ça veut dire que c'est le chômage qui va diminuer. Bon, bien évidemment que c'est une très bonne nouvelle. Oui, par contre, effectivement, je fais un petit salut aux camarades de la CGT Amazon qui sont au combat dans l'entreprise, parce que l'emploi c'est bien, les conditions de travail c'est aussi bien. Et là, il y a du combat et il y a de la bataille, il y a des choses à dire. Mais là, il y a une création d'emplois, 2000 emplois, bien évidemment que c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, et qu'on aimerait bien en avoir plus.
Oui. Alors après, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on aimerait aussi que ce soit des entreprises françaises qui réussissent à s'implanter comme Amazon. Thierry Moreau, on se souvient l'année dernière de ces brioches dorées qui voulaient créer un nouveau site avec 500 emplois à la clé en Bretagne et qui n'a pas pu parce que il y avait des sauterelles ou des papillons, je ne sais plus, enfin une espèce certainement protégée sur le site de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage.
Alors l'installation des sites importants dans les campagnes pose aussi beaucoup de problèmes de réglementation. Et d'ailleurs, le gouvernement normalement s'est attaqué à ce type de problème, de façon à ce que la création d'un site industriel ou d'une sorte de pôle de distribution ou de logistique soit plus facile à installer qu'auparavant. Mais de toute façon, Amazon, on ne peut pas lutter. Il n'y a pas d'autres géants français de la distribution. Bah ce que j'ai retenu dans ce qu'a dit Paul, surtout, c'est que ça permet à beaucoup d'entreprises françaises de distribuer leurs produits. Alors après, il faut voir effectivement les conditions de travail, notamment les cadences, parce que je crois qu'en termes de cadence, Amazon est une entreprise qui est très très dure. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des publicités partout sur nos écrans montrant que quand on est chez Amazon, on peut acquérir des formations pour grimper dans l'entreprise. Donc c'est sans doute vrai parce qu'il y a cet argent pour les formations. Mais effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur les conditions de travail et les cadences à voir chez Amazon.
Mais non, on avait un maquilleur notamment sur RMC qui est entré chez Amazon lors du confinement. Il y avait plus de boulot et il a gravi très très rapidement les échelons avec des formations, etc. Et effectivement, bien ce sûr. Qu'il en dit n'est pas du tout ce qu'on peut entendre parfois sur les cadences. Alors oui, il faut bosser, ça évidemment, mais en tout cas effectivement sur les formations, etc. Et le fait de pouvoir grimper les échelons, c'est à l'américaine, quoi. C'est-à-dire qu'à l'américaine, vous rentrez chez McDo et trois ans après vous possédez le McDo, quoi. Vous voyez,
donc c'est... après en fait on se dit voilà que effectivement Amazon a extrêmement mauvaise réputation en France parce qu'en France on déteste de toute façon tout ce qui marche, et après on va dire c'est dommage que ce soit américain, que ce soit pas français.
Voilà
ce qu'on récolte quand avec ce système de taxes permanentes et de restrictions et de taxes écolo et de tout
c'est
ça
pas une question
voilà
de taxes, Juliette. C'est par exemple qu'Amazon s'arrange parce que le chiffre d'affaires global généré en France soit réduit de façon à pas se faire payer d'impôts.
Si vous pensez qu'on est largué avec l'ubérisation et les entreprises comme Amazon, attendez qu'arrive l'IA, parce que l'IA, on n'a même pas commencé à travailler dessus, qu'on a déjà commencé à l'interdire et à la restreindre, pendant que d'ailleurs en Chine et aux États-Unis, c'est en train de développer des trucs de fou.
Personne n'interdit l'IA en France.
Non.
Personne n'interdit l'IBA.
Mais bien sûr qu'il faut poser des garde-fous, encore heureux d'ailleurs.
Ils sont déjà en train de faire des textes, etc. Ils sont,
on a, ah oui, mais là, il y a le goût, il y a même le gouvernement. Mais même les infos qui annoncent qu'il y a de l'IA qui va être partout.
Mais partout, mais tout va venir des États-Unis et de la Chine. On est largué, on n'a rien fait.
On a un peu moins d'habitants aussi que les États-Unis et la Chine.
On est largué sur tout, donc on est largué sur l'ubérisation. On n'est pas monté dans le train. Et ben, on n'est clairement pas monté dans le train de l'IA non plus.
Mais encore heureux qu'on pose des garde-fous environnementaux et sociaux. Sinon, c'est quoi la société
alors,
du futur?
Ne vous plaignez pas. Alors
non, non, mais on se plaint. Mais
non, mais c'est des géants question. Américains.
Non, mais on assume les choses. Moi, j'assume très simplement le discours. Il n'y a pas que, effectivement, les résultats économiques d'une entreprise, le bien-être social des salariés.
C'est vrai.
Ça compte. L'impact environnemental, ça compte.
Et
encore
dans le
heureux
monde,
qu'en Europe, on défend ces positions-là. Oui, mais... Encore heureux. Parce que sinon, le monde va devenir rapidement un enfer.
Mais les autres pays, les autres puissances, elles se gêneront pas pour avancer pendant que nous, on fera du surplace socialiste.
Si le modèle, c'est franchement le modèle social et environnemental, c'est la Chine d'aujourd'hui, on est mal barré.
Non, c'est parce qu'elle a dit non plus.
C'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez bien que c'est pas ce que j'ai dit.
Non,
c'est pas ce qu'elle a dit.
Ou même
sur place socialiste, elle a un petit peu caricaturé aussi.
On sait pas le joueur pourtant.
Oui, non.
Bon, la suspension du jour.
Suite aux manifestations pro-palestiniennes organisées à Sciences Po, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé hier que la région suspendait ses subventions à l'établissement, une suspension qui sera effective, je cite, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école, selon la présidente. La région défend le droit à des débats libres, éclairés et respectueux au sein de l'université française. Valérie Pécresse qui appelle également à un sursaut d'autorité.
Ça me dit quelque chose, tiens, c'était Gabriel Attal la semaine dernière, le sursaut d'autorité. C'est une bonne chose, cette suspension du financement de Sciences Po, pour vous, Benjamin?
Mais écoutez, moi, je suis sidéré, parce que sur cette question du Proche-Orient, je me demande si c'est la course à l'échalote pour trouver la mesure la plus hors sujet, hors sol, délétère et toxique. Qu'est-ce que ça va ? La situation de ce qui s'est passé à Sciences Po interpelle, pose des questions, diverses d'ailleurs, je veux dire. Mais alors ça, cette mesure-là, consistant à arrêter le subventionnement, la subvention de Sciences Po, c'est-à-dire une mesure de rétorsion collective pour qui va finalement rejaillir sur l'ensemble des étudiants, je trouve ça mais sidérant.
Oui, mais l'image que certains étudiants ont donnée de Sciences Po rejaillit sur l'ensemble des étudiants.
Alors, qu'on se pose des questions sur ce qui s'est passé, ok. On peut avoir le débat, mais là, c'est pas le débat. Le débat, c'est la mesure de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que ça va apporter en sérénité d'attaquer la subvention de Sciences Po? Mais rien.
C'est le symbole.
On a besoin, honnêtement, on a besoin sur cette question-là de ce qui se passe au Proche-Orient, de savoir raison garder, de redescendre des tours, d'avoir des débats un petit peu.
Mais raison garder, c'est pas tout à fait ce qui se passe à Sciences Po.
Mais c'est pas ce. Est-ce que j'ai dit que je trouve formidable ce qui s'est passé à Sciences Po?
Non.
Mais pour autant, on faut savoir raison garder et ne pas faire n'importe quoi. Prendre des mesures qui sanctionnent les universités, qui sanctionne les centres de formation, c'est complètement d'abord injuste et ça va ne faire que crisper encore plus.
Qui elle veut punir en faisant ça, Valérie Pécresse, en enlevant ses subventions, c'est même pas les élèves qui étaient devant l'école, c'est l'administration qui a plié le genou et qui s'est mis à négocier avec un groupe d'élèves très minoritaire, il faut le dire, à Sciences Po. C'est pas tout Sciences Po qui est devant l'école, c'est quelques centaines de personnes qui se teignent les mains en rouge et qui réclament l'annihilation de l'État d'Israël. Donc on a une entreprise de Sciences Po qui, sachant ça, au lieu d'être ferme, décide de plier le genou et de négocier avec ses étudiants. Donc il est normal qu'il y ait des sanctions et que Valérie Pécresse fasse passer le message en effectivement à l'administration de Sciences Po que dans ce pays, non, on ne négocie pas avec l'antisémitisme. Et voilà.
Je partage ton analyse sur le fait que ce qui s'est passé à Sciences Po est inacceptable. Évidemment, il y a une minorité qui a bloqué l'entrée de 13 000 étudiants. On rappelle quand même que Sciences Po, c'est 13 000 étudiants qui vont y travailler. Je pense que le fait de sucrer cette subvention, en plus, c'est uniquement une annonce temporaire parce qu'elle va le rétablir dans 3 mois quand on va
revenir
au calme. En revanche, là où effectivement l'administrateur provisoire de Sciences Po a été lamentable, c'est qu'il fallait absolument pas négocier avec cette minorité qui bloquait. Il fallait être d'une sévérité absolue, point barre. Mais cette réponse totalement politique de Valérie Pécresse qui remettra la subvention dans 3 mois une fois que les choses seront calmées me paraît pas être tout à fait la bonne réponse.
Et ça n'aura rien calmé.
Et ça n'aura rien.
Oui, ça c'est fort possible. L'abandon du jour.
Les violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël l'été dernier ont particulièrement touché la ville de Denain dans le Nord. Près de 600 000 euros de travaux sur les bâtiments communaux. Sauf que depuis le 1er janvier, à cause de ces émeutes, aucun assureur n'a répondu à l'appel d'offres lancé par la mairie pour assurer ces bâtiments à partir de janvier 2024. Malgré le recours à un courtier, aucun ne s'est toujours manifesté fin avril. Petit rappel au niveau national, les émeutes de juin ont coûté 650 millions d'euros selon la Fédération des assureurs.
C'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments de la ville ne sont pas assurés?
Non. Ah oui. Ils ne sont plus assurés.
Ne sont plus assurés.
Ils l'étaient jusqu'au 31 décembre 2023.
Ben ça, c'est quand même un énorme problème. Hein. Et ce sont des dégâts collatéraux, des émeutes qu'on ne pouvait même pas imaginer, quand même, Benjamin Hamar.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, quelque part, pour les populations riveraines.
Oui. C'est pas une ville très riche, hein, Denain.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bah, ils sont pas bien fortunés, c'est une double peine.
C'est ça.
Donc, je pense que c'est Pour les populations concernées et qui vivent là-bas, je pense que ça va être l'occasion de franches discussions avec les jeunes, avec que chacun mesure effectivement la gravité de ses actes. Je pense que derrière les familles concernées, quand elles n'arrivent plus à s'assurer, bah ça doit être l'occasion de discussions franches, les yeux dans les yeux.
Enfin, sauf que en fait un bâtiment public ne peut pas ne pas être assuré. Donc je pense qu'il va se passer la même chose que quand un particulier ne trouve pas d'assureur. La Fédération française des assureurs désigne un assureur. Je pense que là, comme c'est un établissement public qui va recevoir du public, je pense que là aussi il doit y avoir des dispositifs, parce que un bâtiment qui reçoit
cher,
du public, un bâtiment communal non assuré, ça ne peut pas exister. Sinon, on est obligé de le fermer.
Et ça ne se répercute pas du tout sur les populations riveraines particulières. C'est uniquement, ça concerne sûrement, comme l'a dit Thierry, là, les établissements publics.
Là, c'est les établissements publics de la ville de Denain, donc dans le Nord. Allez, tout de suite, Vincent Serroussi n'a pas tout compris.
RMC, Estelle Midi.
Serroussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle.
Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Valérie Pécresse va suspendre, justement, on en parlait, le financement de la région Île-de-France à Sciences Po.
Ah oui, Valérie, elle nous fait une petite crise d'autorité, là. Bon, c'est vrai qu'elle fait peur, hein, elle fait peur. Bah, déjà, sur la guerre en Ukraine, souvenez-vous de ce qu'elle avait dit sur Poutine. Hein.
Dire à Vladimir Poutine, maintenant, c'est stop.
Ok, super nanny. Poutine va flipper. Hein. Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas avec ce débat, c'est pourquoi elle a pas coupé les financements de Sciences Po avant. Moi, je la connais bien, cette école, j'y étais élève. Oui, vous avez devant vous l'élite de la République.
Ça promet.
Un clown, voilà. Comme les autres.
Tout s'explique.
Mais exactement. Après, je veux pas cracher sur Sciences Po. Sciences Po, c'est une grande école de théâtre. Ils ont formé les meilleurs comédiens, Sarko, Macron, Hollande. Il y a un vrai savoir-faire en la matière. Mais si vous saviez à quoi servent les financements publics à Sciences Po, à financer des soirées BDE et les shots de tequila des week-ends d'intégration, coupez-les, ces financements, bien sûr.
Mais quand même, on peut pas nier qu'il y a une radicalisation là à Sciences Po lors de ces manifestations.
Estelle, ça reste des fils à papa qui se prennent pour Che Guevara juste parce qu'ils écoutent du Manu Chao. Alors, voilà. Et après les manifs, ça rentre chez soi dans les bidonvilles du 16e arrondissement de Paris. Et puis bon, c'est pas que les élèves se sont radicalisés, c'est juste... On se fait chier, Estelle, à Sciences Po. Tu veux faire quoi d'autre à part manifester? Toi, t'as envie de suivre un cours de droit constitutionnel allemand sur la République de Weimar en 1919? T'as des conférences de Bruno Le Maire. Tu vas manifester, y a que ça à faire, en fait. Mais oui.
Et on dit aussi que la France insoumise a infiltré le mouvement.
Mais encore, c'est positif, Estelle. Les filles qui infiltrent les manifs de Sciences Po, ça leur permettra de retourner à l'école. Excusez-moi de le dire. Ils pourront apprendre des trucs. Bah, quant au modèle économique, c'est le Venezuela, c'est que t'as loupé de 3 cours d'éco, quand même.
Je suis d'accord.
Quand tu rends hommage à Fidel Castro, c'est que t'as pas trop suivi en cours d'histoire, donc c'est pas si mal finalement.
À propos des LFI, on s'est aussi demandé dans l'émission si Gabriel Attal devait débattre avec Jordan Bardella, ce qui n'a rien à voir avec LFI d'ailleurs.
Oui, mais c'était on parlait de politique, quoi.
Ah oui, d'accord. Oui,
voilà, j'essaie de vous faire une petite transition.
Oui, oui. Voilà. Bon.
Écoutez, moi, j'ai hâte du débat. En tout cas, ça va être le premier débat des délégués de classe à la télé. C'est le choc des titans. Hein. C'est le nouveau clash Boubacari pour les gens du Cap Ferré. Non, mais ce que je trouve marrant, quand même, c'est que Bardella et Attal veulent absolument se rencontrer. On dirait un peu le début d'une comédie romantique, tu vois pas ? La confrontation entre le fils des Beaucartiers et le gamin de Saint-Denis. Ils ne viennent pas du même monde, tous les opposent, mais ils vont finir par s'aimer. Non, moi je veux que ça se galoche à la fin du débat. Sinon, j'éteins la télé.
Mais vous, Vincent, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que Jordan Bardella débatte avec Gabriel Attal ou l'inverse?
Oui, de toute façon, après, Attal va pas faire des miracles, c'est pas un magicien, hein, comme l'a dit Benjamin Hamar.
Le gouvernement, c'est pas Dumbledore.
Voilà, simplement. Bah, oui. Ce débat, c'est surtout le moyen d'évincer Valérie Ayé, la tête de liste d'En Marche aux européennes. Alors que c'est dommage, parce qu'elle a un charisme de fou.
Voulez-vous laisser le champ libre aux partis de Le Pen, Meloni, Orban, Wilders?
Ça donne envie, ça donne envie. Candidate trouvée sur le bon coin, visiblement. Non, mais elle devait être là. Je peux débattre, moi, avec Bardella? Non, non, Valérie, te fais pas chier, te fais pas. Ils ont fini par accepter quand même qu'elle débatte avec Jordan Bardella. Et ça promet, parce que Valérie est sur un plateau de télé, ça donne ça.
Bonsoir, Gilles Boulot, pardonnez-moi. Bonjour. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru. Jordan Bardella immédiatement dit non. Commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Vous êtes dur quand même.
J'ai surtout hâte de voir le débat Bardella, Valérie.
Merci beaucoup Vincent Cirouci, tous les jours dans Estelle Midi à 14h50 et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.